RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bienvenue au programme Le Journal. Nous commençons avec le titre « Le gouvernement russe prépare la visite de Poutine en Indonésie ». Le gouvernement de la Fédération de Russie se prépare encore à la visite bilatérale du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en Indonésie en 2018. À travers de la préparation minutieuse, la visite de bilatérale pourrait apporter de grands avantages au peuple des deux pays et vont renforcer les relations de coopération dans différents domaines, notamment dans les domaines de coopération qui n'ont pas été explorés au maximum. Ceci a été transmis par l'ambassadrice de la République de la Fédération de Russie en Indonésie, Lyudmila Georgievna Verobiva, lors de sa conférence de presse à Jakarta récemment. Ce type de visite doit être préparé très bien. Donc, bien sûr, avant son arrivée, le ministère des Affaires étrangères et tous les conseils d'État vont travailler dur pour rendre la visite très importante. Le but de cette visite est d'intensifier les relations entre les deux pays et de les apporter à un meilleur niveau. En outre, nous nous assurons que tous les domaines de coopération sont pleinement explorés. Donc, nous devrons travailler dur pour faire cette visite d'être un succès. Et cela profitera aux populations des deux pays. Liée à la certitude de la visite bilatérale, l'ambassadrice Lyudmila Georgievna Verobiva n'a pas été en mesure de fournir d'autres assurances. Selon elle, le président Vladimir Poutine vient de reconquérir les élections présidentielles russes de 2018 et il est préoccupé par les préparatifs d'investiture pour sa victoire. Toutes les décisions concernant la visite du président seront prises après l'inauguration. L'inauguration aura lieu en mai 2018. La question de la visite du président Vladimir Poutine en Indonésie a commencé à faire surface depuis que le président de l'Indonésie, Joko Widodo, a invité le président Poutine à se rencontrer à Sochi en 2016. Cette question était de plus en plus audible l'année dernière, après la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov, l'année dernière. La deuxième nouvelle, c'est l'UNESCO désigne le Mont Rinjani et Cilete Pelabuhan Ratu comme les géoparcs du monde. Le Mont Rinjani sur l'île de Lombok, Nusa Tenggara Ouest, a été désigné comme géoparc mondial à la session de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qui a eu lieu récemment à Paris. Il a été dit par l'assistant pour l'économie et le développement du secrétaire du gouvernement provincial de Nusa Tenggara Ouest, Hairul Mahsul, cité par Antara, ce midi 14 avril. Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à atteindre le statut de géopark mondial. Et le géopark Shileto Pelabuhan Ratu, la région de Sukabumi, a été officiellement reconnue par l'UNESCO comme géopark mondial et la première à West Java. Cela a été déclaré par le gouverneur de Java West, Ahmad Heriawan, sur la plage de Palembang, la zone du géopark Shileto, dimanche le 15 avril. L'inauguration se tiendra en septembre. À ce moment-là, un certificat sera délivré à l'UNESCO Global Géopark. La troisième nouvelle, c'est ensuite, l'Indonésie accueille la championnat junior de bridge de l'Asie et du Pacifique. L'Indonésie accueille un championnat junior de bridge pour l'Asie et le Pacifique intitulé Championnat ouvert 2018 de la Fédération de bridge de l'Asie et du Pacifique, ou APBF, à Bogor, l'ouest de Java, du 13 au 20 avril 2018. Cette année, selon le président de l'Association indonésienne de bridge, Eka Wahyu Kasih, seulement 7 pays d'Asie et du Pacifique ont rejoint l'événement, y compris l'Indonésie.
Untuk tahun ini itu diikuti oleh 7 negara. Negaranya adalah
7 pays ont participé cette année, à savoir l'Australie, le Taipei chinois, Hong Kong, la Chine, les Philippines, la Thaïlande et l'autre Indonésie. Nous ouvrons de grands chances aux athlètes de diverses régions du pays de participer et nous avons envoyé près de 12 équipes dans 4 catégories dans l'événement. Les 4 catégories mentionnées dans le championnat ouvert 2018 de la Fédération de bridge de l'Asie du Pacifique sont à l'âge de 26 ans, filles à l'âge de 26 ans, jeunes hommes à l'âge de 21 ans et filles à l'âge de 21 ans. Eka Wahyu Kasih a également déclaré que PB Gapsi n'a pas déployé ses athlètes d'entraînement nationaux dans l'événement. C'était parce que, selon Eka Wahyu Kasih, les athlètes d'entraînement nationaux se concentraient uniquement sur les Jeux asiatiques de 2018. La quatrième nouvelle, c'est que les athlètes de bridge de l'Indonésie sont entraînés dur pour deux cibles de médailles d'or. Les athlètes qui sont membres de l'association de bridge indonésienne sont entraînés dur pour les Jeux asiatiques de 2018. Le président de l'association de bridge indonésienne, Eka Wahyu Kasih, a déclaré que les athlètes du champ d'entraînement national de bridge participeraient à diverses formations. Non seulement la formation dans le centre d'entraînement à Jakarta, mais aussi divers championnats et à l'étranger. Cela a été dit par Eka Wahyu Kasih à la Voix de l'Indonésie à Jakarta dimanche le 15 avril. À l'heure actuelle, les athlètes du Centre national de formation pour les Jeux asiatiques sont en train de mener une formation nationale à Jakarta. Ils participeront au championnat international en Turquie et puis ils feront les essais. Il y a 4 essais aux États-Unis qui se terminent par un championnat à Atlanta. Le championnat d'Atlanta est l'un des plus élevés au monde où les joueurs du monde entier y joueront. Et après de l'Atlanta, ils seront coachés à nouveau par l'entraîneur du monde, à savoir Christophe Martin, l'entraîneur du monde polonaise jusqu'à la date du 8 août au 18 août. Ensuite, ils se seront reposés 3 jours et ils sont prêts aux Jeux asiatiques où le sport de bridge aura lieu du 21 août 2018. Oui, en effet, nous entraînons dur afin de préparer les athlètes à cibler les 2 médailles d'or minimum pour l'Indonésie. Selon Eka Wahyu Kasih, il a réduit le nombre d'athlètes de 32 à 24 athlètes. Les 8 athlètes restants seront les réserves pour remplacer sortant de 24 athlètes dont les performances diminuent au cours de la période d'entraînement jusqu'au mois d'août. Le progrès d'un champ national de formation des athlètes jusqu'à la deuxième semaine d'avril 2018, certains ont déjà atteint 88% de l'objectif minimum, de 93% pour les hommes. Alors que pour les athlètes féminins, la plupart d'entre elles n'atteignent que 80% du minimum, de 86%. Et ensuite, la coopération avec des investisseurs externes pour augmenter le nombre secteurs. Luhut Binsar Panjaitan, le ministre coordinateur du ministère des Affaires maritimes de la République d'Indonésie, a déclaré que coopérer avec des investisseurs étrangers pourrait stimuler l'investissement et la croissance dans d'autres secteurs tels que l'emploi, la croissance du produit intérieur brut et la croissance économique. Dans sa déclaration écrite reçue par la République en ligne à Jakarta, le ministre Luhut a déclaré dimanche que la coopération de l'Indonésie avec la Chine a pour objectif d'encourager les relations commerciales entre les deux pays dans l'intérêt national. Il a donné un exemple, l'un de la coopération avec la Chine qui est actuellement en croissance de son économie et dans la région de Morowali, Sulawesi central. L'emplacement de la zone industrielle de Morowali fait augmenter la croissance économique de 60%. Le ministre Luhut a déclaré qu'à l'avenir, son côté augmentera les investissements avec la Chine dans les infrastructures, la construction ferroviaire, l'autoroute à péage, les produits automobiles, l'immobilier, les centrales électriques. Et le fer et l'acier. Et enfin, l'exposition de ICPF enregistre la transaction de 10 milliards roupies. L'exposition créative du Festival du produit indonésien 2018 par les entreprises d'État indonésiennes regroupées dans National Publishing and News Corporation qui a eu lieu à Kuala Lumpur du 13 au 15 avril a réussi à enregistrer des transactions de 10 milliards roupies. Comme rapporté par Antara, le chef du comité organisateur de l'exposition créative du Festival du produit indonésien 2018, Ahmad Fahroji, lors de la livraison du rapport de clôture à Kuala Lumpur, dimanche le 15 avril, a déclaré de ce nombre de transactions directes de 5,5 milliards roupies ne sont pas encore inclus les transactions à venir, comme la réservation de 400 mini-tricycles et les uniformes en cours de négociation. Ahmad Fahroji a déclaré que le but de l'exposition est de présenter les produits indonésiens à l'étranger. En outre, l'exposition qui a réuni 80 petites et moyennes entreprises formées par les entreprises appartenant à l'État et le groupe de travail de Papouasie a été menée à Kuala Lumpur. Car Kuala Lumpur est proche de l'Indonésie et de nombreux Indonésiens y vivent.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « La préparation de l'Indonésie à accueillir la réunion annuelle du FMI, la Banque mondiale ». Cette semaine, à Washington DC, aura lieu la réunion du printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale, UBM. Quelque chose habituel pour le FMI et la Banque mondiale, car cela est fait chaque année. Mais pour l'Indonésie, cette réunion est spéciale parce qu'elle est liée à la préparation de l'organisation de la réunion annuelle du groupe du FMI et de la Banque mondiale qui aura lieu à Bali en octobre. C'est pourquoi une équipe dirigée par le ministre coordinateur des affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, composé du ministre de la Communication et de Technologie de l'Information, Rodiantara, et la directrice générale de l'Information et la Communication publique, Niken Udestuti, ont participé à la réunion à Washington. La réunion du FMI et du groupe de la Banque mondiale 2018 est très importante pour l'Indonésie. La réunion sera assistée par environ 15 000 participants et 5 partisans. Il y a quelque temps, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, était venue à Jakarta pour vérifier les préparatifs de l'Indonésie. Lagarde a apprécié tous les aspects qui sont très bien préparés par l'Indonésie. Elle avait aussi vérifié la zone à utiliser à Bali Nusa Dua Convention Center. La confiance Indonésie pour accueillir la réunion annuelle du FMI et la Banque mondiale en octobre 2018 sera le moment de la promotion commerciale et touristique. Les invités et les délégués à assister sont estimés à plus de 15 000 personnes, parmi lesquelles des ministres des Finances, des gouverneurs de la Banque centrale, des banquiers et des PDG du monde entier. Actuellement, l'état de Bali est relativement sourd. Le Mont Agung, qui a montré de l'activité il y a quelque temps, il n'y avait plus d'éruption. Tout sont bien préparés par l'Indonésie, y compris les garanties de sécurité, en mettant en œuvre des normes de sécurité élevées pour les réunions à Bali. L'Indonésie a des forces spéciales Kopassus, qui est l'une des meilleures forces d'élite au monde. Il y avait aussi un détachement Jalamangkara, qui est une des forces amphibies spéciales. Pour les forces de police, l'Indonésie dispose d'un détachement spécial 88 anti-terreur qui est hautement respecté. Les participants, en plus de suivre la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale 2018, peuvent également profiter de la beauté naturelle de Bali. Serviteur, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 16 avril. Le 16 avril, Vladimir Lénine est retourné à Petrograd d'exil en Finlande. Vladimir Ilyich Lénine, son vrai nom est Vladimir Ilyich Ulyanov. Il est un Russe communiste révolutionnaire, leader du parti bolchevique. Son retour de l'exil a été le point tournant de la lutte de Lénine en Russie. Lénine a ensuite tenu une révolution qui a finalement fait tomber l'empire tsariste russe. Peu de temps après la mort de l'empereur et de sa famille, Lénine fut nommé premier ministre de l'Union soviétique, premier chef d'État de facto de l'Union soviétique et créateur du léninisme. Le nom de Lénine est en fait un pseudonyme et est dérivé du nom de la rivière Léna en Sibérie et utilisé quand il était encore un activiste. Comme beaucoup de Russes, Lénine venait de différents groupes ethniques, kalmiques des parents de son père, Volga allemand de sa mère. D'ailleurs, le père de sa mère était un juif. Lénine a été baptisé dans l'église orthodoxe russe. Le 16 avril 1952, la journée de commandement de force spéciale Kopassus. Pour réprimer la rébellion de séparatisme en Indonésie qui a émergé après l'indépendance, comme le soulèvement de la République du Moluques Sud à Ambon en 1950, le colonel d'infanterie Kawilarang, qui à ce moment-là a servi comme commandant de l'armée et territorium 3, maintenant commandement militaire 3 Siliwangi, l'idée de former une force spéciale appelée le commandement unité TT3 Siliwangi. Après tout ce qui concerne l'établissement d'une unité de commandes prêtes, le commandant de TT3 Siliwangi a publié l'instruction numéro 55, insert 1952, du 16 octobre 1952, concernant l'établissement de l'unité de commandement territoire 3, abrégé QESCO 3. Dans le développement des forces spéciales QESCO 3 a développé dans le bataillon Shandi, Yuda, afin de réprimer la rébellion G30S PKI. Divers succès du bataillon Shandi, Yuda a inspiré la direction des forces armées indonésiennes pour former les forces spéciales ayant le noyau du commandement Shandi, Yuda, Kopassanda. Puis, le chef des forces armées d'Indonésie a demandé que Kopassanda a augmenté aux forces spéciales le 2 mai 1985. Depuis lors, le nom Kopassanda s'est transformé aux forces spéciales basées à Cijantung. Compte tenu de la date du 16 avril 1952 et l'histoire de la formation des forces spéciales, alors chaque 16 avril est commémoré comme anniversaire de Kopassus. Le 16 avril 2007, massacre de Virginia Tech, fusillade sauvage sur le campus de Virginia Tech, États-Unis, 33 personnes ont été tuées. Le massacre de Virginia Tech a été perpétré lors de deux fusillades séparées par un descendant coréen de 23 ans, Cho Seung-hee, le 16 avril 2007 à l'Institut Polytechnique et l'Université d'État Virginia à Blacksburg en Virginie aux États-Unis. Les représentants du gouvernement, l'université et la plupart des sources d'information ont confirmé le nombre de morts de 32 personnes suivant le tireur, ce qui en fait le tournage civil le plus sanglant de l'histoire des États-Unis. L'une des victimes est venue d'Indonésie, à savoir Partahi Mamora Halomuan Lumban Toruan de Medan, Sumatra Nord, doctorante à la faculté de génie civil. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteur, voici donc mon Indonésie et pour le titre, Moody's augmente le classement de l'Indonésie dans une perspective stable. L'agence de notation Moody's Investor Service ou Moody's a augmenté la note de crédit souverain ou SCR de l'Indonésie de BAA3 ou Positive Outlook à BAA2 ou Stable Outlook le 13 avril 2018. Dans un communiqué de presse, Moody's a déclaré que le facteur clé était la crédibilité et l'efficacité du cadre politique évalué favorable à la stabilité macroéconomique. L'augmentation des réserves de devises et l'application prudente de politiques budgétaires et monétaires renforcent la résilience et la capacité de l'Indonésie face aux chocs extérieurs. Selon le plan budgétaire, le gouvernement est considéré comme capable de maintenir le déficit budgétaire sous la limite de 3% depuis son adoption en 2003. Un déficit qui peut être maintenu à des niveaux bas et soutenu par un financement à long terme peut réduire le fardeau de la dette, si bien que cela réduit les besoins et les risques de financement. Sur le plan monétaire, la Banque d'Indonésie a fait ses preuves en accordant la priorité à la stabilité macroéconomique. La mise en œuvre d'une politique de taux de change flexible et une coordination politique plus efficace entre la Banque d'Indonésie et les gouvernements centraux et régionaux sont considérés comme capables de maintenir l'inflation à un niveau relativement bas et stable. La Banque d'Indonésie est également de plus en plus active dans l'utilisation d'instruments macroprudentiels face à la tourmente. L'amélioration des positions externes et l'augmentation des réserves de change renforcent la résistance à la tourmente extérieure potentielle. Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque indonésienne, Agus Martowardoyo, a déclaré vendredi que Republika avait déclaré, avec l'amélioration de la notation au niveau de Baa2 par Moody's, cela signifie que l'Indonésie a été reconnue par 4 agences de notation internationale à un niveau plus élevé que le niveau précédent de l'investissement. Cette notation est le plus haut niveau qui a été atteint par l'Indonésie de Moody's. Selon lui, c'est une grande réussite au milieu de l'incertitude économique mondiale qui affecte le développement économique dans la région. Cela peut se réaliser à travers la cohérence des efforts de la Banque indonésienne et du gouvernement pour maintenir la stabilité macroéconomique et le système financier. Agus Martowardoyo expliquait à cet égard que la Banque d'Indonésie continuera à être cohérente de l'augmentation des risques mondiaux et de l'optimisation de la politique mixte qui inclut la politique macroprudentielle et l'approfondissement des marchés financiers dans le maintien de la stabilité économique. Ce sera la base principale de la création d'une croissance économique plus forte, plus durable et inclusive. Auparavant, Moody's avait amélioré la note de crédit souverain ou SCR de l'Indonésie de stable à positive, confirmant simultanément la notation à Baa3 ou le niveau de l'investissement le 8 février 2017. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est en mettant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons Ntinggeti de Java Es. Restez à l'écoute. L'Est de Java a divers types d'aliments typiques qui ont été bien connus comme pecel, rawon, rujak cingur, etc. En plus de ces aliments, Java Es en particulier Blitar a un casse-croûte, à savoir Ntinggeti. Ntinggeti est une collation traditionnelle de Blitar à base de l'arachide, de sésame et de sucre de palme. Cette nourriture est généralement servie le jour de la fête ou la fête de mariage pour accueillir les invités. La saveur savoureuse de la cacahuète qui se mélange avec du sésame donne une sensation qui est un peu différente. Le goût du sucre de palme savoureux, croquant, et le sucre du sucre brun qui est mélangé en un pour que la collation soit toujours aimée non seulement par les gens de Blitar, mais aussi pour les touristes qui viennent dans cette ville. Ntinggeti a un goût spécial et durable. Ainsi, cette collation est adaptée pour être un souvenir lors de vacances à Blitar. Ntinggeti est généralement produit dans le district de Kademangan, situé au milieu de la résidence de Blitar. Il est très facile pour les producteurs de commercialiser tout au long de la résance. La collation traditionnelle aura un goût délicieux lorsqu'il est apprécié avec du café, lorsqu'on est détendu. Serge Ritter, le processus de fabrication d'un tingati est assez simple. Tout d'abord, les arachides sont frites sans huile de cuisson jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites, ce que la couleur de la cacahuète change pour paraître brune. Ensuite, la cacahuète frite est élevée et écrasée à peu près. Ensuite, vous préparez le sucre de pomme, le sucre granulé et la vanille à mélanger et ajouter peu d'eau. Ceci est cuit en remuant jusqu'à ce que le sucre se dissolve pour épaissir comme le sirop. Après cela, la cacahuète est mise dans l'eau sucrée épaisse et remuée pour que la pâte soit mélangée et épaisse. Ensuite, la pâte est mise dans une casserole qui était recouverte de papier huilé. Ensuite, il est aplati. Une fois la pâte séchée, coupez-la en morceaux selon votre goût et votre taille. Le prix d'une partie d'un tingati varie de 5 000 rupiah à 35 000 rupiah. Serviteurs, c'était notre programme Le Magazine Culture pour ce soir avec le titre Un tingati de l'Est de Java. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide par l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est cuaca ou en langue française météo. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre cuaca ou en langue française météo. Pemandu wisata. Bagaimana cuaca di London sekarang? Tony. Sangat dingin dan sedang turun salju. Pemandu wisata. Oh, sedang musim dingin ya? Tony. Ya, benar. Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et les phrases reliant au thème d'aujourd'hui, à savoir cuaca ou en langue française météo. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? En français, comment est la météo à Londres maintenant? Sangat dingin dan sedang turun salju. Sangat dingin dan sedang turun salju. En français, très froid et il neige. Oh, sedang musim dingin ya? Oh, sedang musim dingin ya? En français, oh, c'est l'hiver? Ya, benar. Ya, benar. En français, oui, c'est vrai. Serviteurs, si vous voulez connaître la météo dans un endroit, par exemple à Londres, vous pouvez dire Bagaimana cuaca di London sekarang? Je répète, Bagaimana cuaca di London sekarang? En français, Comment est la météo à Londres maintenant? Si vous voulez connaître la météo aujourd'hui, demandez Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? En français, Comment est la météo aujourd'hui? vous pouvez répondre cuacanya cerah en français. Le temps est ensoleillé. Ensuite, cette question peut être répondue en mentionnant l'état de l'air, par exemple panas. Panas en français chaud. Dingin. Dingin en français froid. Atau sejuk. Sejuk en français frais. Ou en mentionnant les circonstances de la météo, par exemple berawan. Berawan en français nuageux. Hujan. Hujan en français il pleut. Dan turun salju. Turun salju en français il neige. Les autres exemples. Bagaimana cuaca di Jakarta? Bagaimana cuaca di Jakarta? En français, quelle est la météo à Jakarta? Berawan dan mungkin akan hujan. Berawan dan mungkin akan hujan. En français, nuageux et il peut pleuvoir. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, étant l'exemple de la conversation encore une fois. Pemandu wisata, bagaimana cuaca di London sekarang? Tony, sangat dingin dan sedang turun hujan. Pemandu wisata, oh, sedang musim dingin ya? Tony, ya, benar. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se rencontre encore avec moi, Tiwi, dans l'émission du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter des chansons de keroncong de l'Indonésie qui est chantée par Mus Mulyadi. Restez écoutez-nous par la diffusion en direct à indonesia.rriworldservice.com ou par RRI Play sur votre smartphone. Pour commencer notre rencontre d'aujourd'hui, écoutons une chanson intitulée Putra Pertiwi par Mus Mulyadi.
Oh, kau satria, kau kalaksana sang perias jati, setia menepati janji bagi. Berkibar panji pusaka bangsa, jasa pahlawanku nan setia, kan terukir namamu abadi, kau satria putra pertiwi. Mengilhami hayalanku cita, syairku pun berdendang tembang, senandung pahlawan bangsaku. Setia menepati janji bagi, mengabdi pada pertiwi, berkibar panji pusaka bangsa, jasa pahlawanku nan setia, kan terukir namamu abadi, kau satria putra pertiwi.
Voilà la chanson chantée par Mus Mulyadi dont le titre est Putra Pertiwi. Cette chanson parle de la lutte des héros nationaux qui sont devenus l'inspiration dans la vie. Mus Mulyadi est un chanteur indonésien de Surabaya, Java de l'Est. Il a non seulement chanté des chansons javanaises, mais Mus Mulyadi a beaucoup chanté des chansons de Kroncong. Sa capacité à chanter ce genre de musique l'a même conduit à un degré comme le crocodile de Kroncong. Bon, ensuite, écoutons une autre chanson de Mus Mulyadi dont le titre est Dewi Murni.
Thank you.
Kembangkan sutra ungu melambai merinya rasa semerbak memenuhi angkasa beralih
Chers amis, vous venez d'écouter une chanson intitulée Dewi Murni. C'est une chanson de Keroncong créée par Sariwono ou Oji Nurhasim. Elle parle de la beauté des déesses qui se baignent dans le lac de Dewa. Cette chanson a également été interprétée par d'autres chanteurs indonésiens. Mus Mulyadi est connu comme un chanteur de cloncheon à Surabaya. Il est né d'une famille d'artistes. Son frère et sa sœur travaillent également comme chanteurs. Sa sœur Sumiati, elle est la chanteuse de cloncheon aux Pays-Bas, et son frère Mus Mujiono est chanteur pop et jazz indonésien. Mus Mulyadi a choisi de se concentrer sur la musique de cloncheon. Tout au long de sa carrière dans le monde de la musique, certaines de ses chansons sont devenues des hits, entre autres Kota Solo, Dinda Besari, Telomoyo et Jembatan Merah. Alors, chers amis, ensuite écoutons deux chansons intitulées Dinda Besari et Hanya Satu qui sont chantées par Mus Mulyadi. En écoutant les deux chansons, on termine notre rencontre d'aujourd'hui. Bonne écoute et à la prochaine!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Kau di esok malam, di kala bulan purnama gemilang dan jua bintang-bintang bertabur. Satu di hatiku lekat di hati tiada ternoda maligai cintaku padanya. Jelang kau di esok malam, di kala bulan purnama gemilang dan jua.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOI. INDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.